L'instant philo. L'amitié. Bonjour. Pour cette première émission de l'été, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Cauchois, étudiant au lycée François 1er du Havre, en classe préparatoire aux écoles de management. Il va aborder le thème de l'amitié. C'est donc cette fois-ci une émission à deux voix, dont le texte et les références peuvent être consultés sur le site de l'Association de la Maison de la Culture du Havre. Je laisse la parole à Charles Cauchois.
L'amitié est un mot que l'on emploie souvent sans saisir précisément le sens. C'est un réel lien qui ne se réduit pas, par exemple, à la communication avec les amis sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est intéressant de mettre en lumière certains de ces aspects mal connus, parfois même sombres. Tout d'abord, instinctivement, on se représente l'amitié comme une relation basée sur des moments de partage joyeux entre des amis qui ont l'air de bien se connaître. Cependant, l'amitié peut prendre différentes formes. Par exemple, quand on n'est pas bien, les amis sont là pour nous soutenir et nous remonter le moral. Elle permet donc de ne pas se sentir seul, abandonné et ou isolé, mais au contraire, de se sentir soutenu, même si on n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec son ami. D'ailleurs, avoir des divergences de vues avec un ami est normal. Cela permet de consolider les liens et d'approfondir sa réflexion par la confrontation des idées. Mais l'amitié peut également produire des situations plus mélancoliques, lors de déceptions ou de trahisons qui restent très douloureuses. Une chose est sûre, elle tient une place importante dans nos vies pour la qualité de la communication et la profondeur du sentiment qu'elle procure. Grâce à elle, on se sent écouté, on partage de bons moments avec des personnes avec lesquelles on peut rire, pleurer, discuter de sujets sérieux. Chaque amitié est certes différente et unique, mais cela ne l'empêche pas d'être un sentiment universellement partagé, quelles que soient les classes sociales, les origines ou les âges. Pour approfondir notre compréhension de l'amitié, il est utile de la distinguer d'autres sentiments avec lesquels on pourrait la confondre. Tout d'abord, amitié et amour sont très proches. Les deux se nourrissent de complicité, d'affection, d'expériences partagées, ou même de sincérité. Les deux sont aussi valorisés. Montaigne, à la perte de son ami Étienne de la Boétie, cherche la raison de cette relation et finit par donner une explication dans ses essais qui pourrait très bien être invoquée pour la relation amoureuse. En effet, il dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Cela montre la part du mystère qui subsiste dans l'amitié et sa proximité avec l'amour. Amitié et amour sont source de grand bonheur, mais aussi de grande tristesse. Comme dans l'amour, de véritables déceptions existent en amitié quand les personnes que l'on considérait comme de vrais amis nous dénigrent, manquent de nous soutenir quand ce serait nécessaire, ou même se comportent comme des rivaux malveillants. Cependant, ces deux sentiments sont bien différents. En effet, l'amitié ne repose pas sur l'attrait sexuel, comme c'est en partie le cas dans la relation amoureuse. Les relations amoureuses, la plupart du temps, requièrent une exclusivité mutuelle, pas l'amitié. Ainsi, peut-on parler de groupe d'amis ? On peut penser par exemple à la série américaine Friends. Alors que la relation amoureuse s'épanouit dans le couple et la conjugalité. Enfin, pour marquer leurs différences, le langage ordinaire ne manque pas de ressources. On déclare « je t'aime » à la personne dont on est amoureux. Mais on dit à la personne à laquelle on éprouve de l'amitié qu'on l'aime bien. Et on précise, quand on est dans un rapport amoureux, qu'on a affaire à son petit ami ou sa petite amie. Cette distinction se retrouve chez les Grecs anciens, qui parlent d'Eros, dieu de l'amour, mais aussi de la philia, terme qui, pour Aristote, désigne l'amitié et dans laquelle il inclut les relations affectives au sein de la famille et la fraternité dans la cité. Notre définition de l'amitié est, à tort ou à raison, plus restrictive. On va même jusqu'à dire, quand les relations filiales nous paraissent étouffantes, les amis, on les choisit, et la famille, on la subit. Pour nous, l'amitié est donc un sentiment d'affection, un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre, qui ne repose ni sur l'attrait sexuel, ni sur la parenté. Dans la tradition occidentale, il y a un troisième terme grec qui désigne le fait d'aimer. Non pas un humain, mais un dieu. C'est agapé, qu'on peut traduire par « amour de Dieu » ou encore « charité ». Il est clair que Dieu n'est ni un ami, ni un petit ami. François de Sales, mystique catholique, né en 1567 et mort en 1622, estime que l'amour de Dieu est vraiment spécifique et supérieur à tout. Il déclare dans l'introduction à la vie dévote « L'amour tient le premier rang entre les passions de l'âme. C'est le roi de tous les mouvements du cœur. Il convertit tout le reste à soi et nous rend tels que ceux qu'il aime. Or, l'amitié est le plus dangereux amour de tous. Car les autres amours peuvent être sans communication, mais l'amitié, étant totalement fondée sur elle, on peut presque la voir avec une personne sans participer à ses qualités. Tout amour n'est pas amitié. » François de Sales fait de l'amour la réalité première de la vie affective. Mais l'amour peut s'incarner de différentes manières. Ce religieux a écrit un traité de l'amour de Dieu. Et, dans la citation donnée, on voit bien qu'il est sévère avec l'amitié, la filia des anciens païens, qu'il juge être le plus dangereux amour de tous. Du point de vue de ce religieux monothéiste, l'amour de Dieu, trop méconnu des Grecs polythéistes, est la façon d'aimer la plus excellente et la plus désincarnée. On n'est pas obligé d'adhérer à ce jugement. Il nous apprend simplement à distinguer d'une part amour mystique et dévotion, et d'autre part l'amour éprouvé pour un humain dans lequel Eros et Philia ont leur place différente, même s'ils peuvent parfois se combiner. Ensuite, avoir de vrais copains, littéralement ceux avec qui on partage le pain, ou bien pour Georges Brassens, tout le reste.
C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
Nos analyses peuvent être complétées avec profit avec les éléments de définition de l'amitié que propose Aristote dans l'éthique de Nicomaque. Pour le précepteur d'Alexandre le Grand, l'amitié, la philia, est un sentiment qui fait que nous aimons un être pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il peut nous apporter. C'est un attachement sélectif entre deux personnes et une bienveillance active et réciproque qui en résulte. L'amitié parfaite, c'est-à-dire authentique, a pour condition, dit Aristote, la vertu. En grec, arrêté, c'est-à-dire l'excellence et la qualité de l'ami. Effectivement, pour lui, l'amitié parfaite, qui distingue des relations simplement intéressées, a quatre caractères spécifiques. Tout d'abord, elle repose sur la vertu, c'est-à-dire sur la qualité d'une personne qui se définit par la disposition permanente, acquise par habitude, à bien faire dans tous les domaines. Aristote, on le voit, a une vision plutôt exigeante de l'amitié, on pourrait même dire aristocratique. Les gens vulgaires, selon lui, ne peuvent pas être vraiment amis. C'est une relation aussi qui se nourrit de réciprocité. Aristote écrit « L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. » Relation dans laquelle l'autre est aimé pour lui-même, pour sa valeur personnelle, pas uniquement parce que la relation avec lui est intéressante ou utile à un moment donné. L'amitié se distingue donc de la passion amoureuse qui fantasme tant sur la personne aimée qu'elle ne la voit pas telle qu'elle est vraiment. Enfin, et c'est une conséquence de tout ce qu'on vient de dire, la vraie amitié est stable et durable. Pour les philosophes grecs, en général, l'amitié est un des biens les plus précieux. Un autre philosophe, Épicure, matérialiste, lui, déclare ainsi « L'amitié mène sa ronde autour du monde habité comme un héros, nous appelant tous à nous réveiller pour nous estimer bienheureux. » L'opposition, on le voit, est forte avec le jugement sévère de François de Sales. Encore maintenant, d'ailleurs, cette relation affective est louée, représentée dans l'art, dans la littérature, où beaucoup d'œuvres abordent des relations amicales pour en décrire l'importance et montrer que celles-ci permettent de dépasser des oppositions artificielles. Dans « L'ami retrouvé », le romancier Fred Ullmann décrit ainsi l'amitié entre un médecin juif et un aristocrate allemand durant le régime nazi. L'amitié est donc source d'espoir en l'humanité, même dans des périodes où les horreurs se multiplient. Elle repose, certes, sur la qualité des individus, comme le souligne Aristote, mais quand elle anime une âme, elle stimule aussi toutes ses qualités et peut conduire la personne qu'on juge la plus vulgaire à montrer de la noblesse.
Mais tout l'espoir que l'on fonde sur l'amitié peut produire des cuisantes déceptions. Le terme amitié est trop souvent banalisé. On appelle vite un ami une simple connaissance. Montaigne distingue l'amitié commune de l'amitié véritable. C'est en effet sous-estimer l'amitié que de la confondre à une banale convivialité. Une mauvaise appréciation des personnes auxquelles accorder confiance et amitié solide est source de dures déconvenues. Rappelons-nous qu'on dit généralement qu'on peut compter les vrais amis sur les doigts d'une seule main. On les définit même parfois comme une famille de cœur. Mais, même dans les familles les plus unies, de mauvais sentiments peuvent parfois venir empoisonner les relations. Alors, comment sait-on qu'on a de vrais amis ? Il ne suffit pas d'avoir les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt ou le même caractère. La présence d'affection et d'affinité ne sont pas forcément de signes fiables. On le voit, l'amitié conserve sa part de mystère, sa propre complexité et sa richesse, mais aussi sa fragilité. Malgré les questions qui restent sans réponse, la sculpture de Miguel Guía, se nommant l'amitié, va à l'essentiel. Elle représente deux mains, l'une dans l'autre, et montre ainsi le caractère à la fois solide et chaleureux de cette relation qui nous permet de partager des moments forts, de se sentir soutenus dans l'existence et de montrer le meilleur de nous-mêmes.
Du soir, ils vont arriver. Je vais m'asseoir, me reposer. Pour avoir l'air décontracté, je vais me raser. Je crois que je sens un peu les légumes. Je vais mettre mon costume. Oh, puis non, ils vont rire de moi comme l'autre fois. Que j'avais ciré mes chaussures pour aller en voiture. Et mes amis ne sont jamais à l'heure. Ils ont toujours à faire. Mais ils ne repartent jamais de bonheur. Encore un verre. Oh, fitaïd, ndo, fitaïd, ndo, fad, ndo, mbo, mbaïd, ndo, haï, mbaïd, ndo.